I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远地区的穆林南家，
正忙着跟人家聊天。
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Audrey Rameau, mais aussi Clémence Alezard et Xavier Martinet, réalisée par Charles Le Gargasson et mise en onde par Ariane Herbé. Quatrième et dernier volet consacré aux prisons, d'une prison à l'autre, la diplomatie des extraditions.
Le tribunal déclare les accusés coupables de trafic de substances illicites et de trafic international.
C'est grave, on dit, qu'est-ce que c'est ce bordel ?
Je préfère l'action à l'inaction. J'ai fait 2 ans et demi d'inaction à regarder le plafond de ma cellule. Une fois que la décision a été prise, des gens exceptionnels sont venus nous tendre une main. On n'a pas regardé la couleur de la main, mais la fermeté du projet. Et puis une fois que ça nous a semblé jouable, eh bien, on est parti.
Vous savez, dans la vie, bien sûr, quand la justice est juste, il faut s'en remettre à la justice. Mais quand vous êtes face à un mur et face à des juges qui sont douteux, la seule solution, c'est de scier les barreaux.
La France, les autorités françaises n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Le principe, c'est qu'on n'extrate pas des concitoyens. Ils auront donc à être, le moment venu et en fonction des décisions de justice, à être convoqués par la justice française.
Au-delà des polémiques autour des conditions d'évasion de ces pilotes français et de la participation d'Émeric Choprade, qui depuis d'ailleurs cette affaire a quitté le Front National, nous allons nous intéresser ce matin à la question de l'extradition. La France n'extradera pas les pilotes d'Air Cocaïne, disait le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll, et cela malgré un accord d'extradition signé en 2000 avec la République Dominicaine. En effet, la France fait partie de ces pays qui n'extradent pas ses propres ressortissants. Les deux pilotes français avaient été condamnés, on s'en souvient, à Saint-Domingue pour trafic de stupéfiants. 680 kilos avaient été découverts à bord du Falcon 50 qu'ils pilotaient dans la nuit du 19 au 20 mars 2013. En revanche, la France peut envisager d'extrader des étrangers. C'est le cas par exemple de cet ancien oligarque kazakh, Mukhtar Abiyazov, incarcéré en France depuis 2013 et dont Manuel Valls a signé récemment l'extradition vers Moscou. Même si pour l'heure, c'est vrai, tout est suspendu puisque les avocats ont fait appel auprès du Conseil d'État. Autre affaire d'extradition, très médiatisée celle-là, qui agite les sphères diplomatiques, l'affaire Polanski bien sûr. Le 30 octobre dernier, un tribunal de Cracovie a refusé l'extradition vers les États-Unis du réalisateur franco-polonais, accusé, on s'en souvient, de viol sur mineur. Les affaires ne manquent pas et chaque décision d'extradition, au-delà de l'accord conclu entre tel ou tel pays, semble soumise à une série de contingences, tant politiques que juridiques. Elle pose plus largement la question de la souveraineté juridique des États. Alors pourquoi la France, contrairement aux pays anglo-saxons, refuse-t-elle d'extrader ses ressortissants, Polanski, Snowden, Battisti aussi? Quelles sont les conséquences de ces différentes affaires aussi sur les relations diplomatiques? Dans quelle mesure ces accords d'extradition vont-ils dans le sens d'une harmonisation du droit aussi sur le plan international? On verra ça aujourd'hui, ce matin, pour nous accompagner dans toutes ces questions extrêmement difficiles mais passionnantes. Jean-Marc Touvenin, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Marc Touvenin. Vous êtes avocat, vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Ouest-Nanterre La Défense et vous êtes donc un spécialiste de ces questions d'extradition. L'affaire qu'il est convenu d'appeler Air Cocaïne révèle un principe, Jean-Marc Touvenin, intangible, respecté par l'État français. Quels que soient les gouvernements, la France n'extrade pas ses ressortissants.
Absolument. D'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut sans doute considérer que les protagonistes de l'affaire Air Cocaïne ont de la chance d'être français. Car, vous l'avez dit tout à l'heure, le principe de non-extradition des nationaux est un principe qui est un principe appliqué par la France, mais pas par tous les États. Il est appliqué aussi par l'Allemagne. L'Allemagne en a fait d'ailleurs un principe constitutionnel. Ça n'est pas le cas chez nous, mais c'est un principe, je dirais, culturel que l'on a validé, je dirais, aux alentours de 1840. Hein, c'est depuis 1841, selon mes recherches, que la règle de non-extradition des nationaux a été posée.
Oui, il n'y a pas toujours eu ce principe de non-extradition. D'ailleurs, quand on remonte, et je crois que vous remontez même à l'époque de Rome, on se rend compte que finalement, ce n'était pas le principe.
Alors, ce n'était pas le principe en France. Alors, à l'époque de Rome, c'est peut-être un peu compliqué de parler de la Gaule, mais Napoléon, en 1811, n'était pas opposé à l'extradition des citoyens français qui seraient réclamés par les justices des pays étrangers.
Donc, première trace d'un refus d'extradition d'un de ses ressortissants, 1687, dans un contentieux entre l'Angleterre et la Hollande.
Alors, effectivement, c'est la Hollande, en fait, qui, la première, a posé dans sa législation interne le principe. Et puis, elle l'a appliqué à ma connaissance, pour la première fois en 1687, à propos de l'affaire Burnett. Alors c'est une affaire un peu trouble, où un ressortissant donc britannique, enfin anglais à l'époque, avait été trouvé refuge en Hollande et avait été naturalisé hollandais très très rapidement après être arrivé sur le territoire de son refuge. Et puis la demande d'extradition avait été refusée, puisque à l'époque, la Hollande, effectivement, appliquait ce qu'on appelait la bulle brabantine, qui interdisait l'extradition des citoyens hollandais, considérant que le jugement des citoyens hollandais devait se faire devant les juges naturels des Hollandais, c'est-à-dire les juridictions hollandaises.
Alors, si on en revient à cette affaire Air Cocaine, ce qui est quand même étonnant là-dedans, c'est que depuis mars 2000, il y a une convention d'extradition entre la République dominicaine et la France.
Absolument, absolument. Mais les conventions conclues par la France prennent toujours soin de préciser que la France refusera ou se réserve le droit de refuser, parce que la législation interne peut changer, d'extrader ses nationaux.
Donc ça, on a respecté la convention.
Ah oui, tout à fait.
Alors il y a quand même une exception à ce principe de non-extradition de citoyens français, c'est quand elle concerne un individu qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen.
Alors, donc, dans le cadre du mandat d'arrêt européen, effectivement, nous sommes entre États qui se respectent mutuellement, qui font confiance dans leur justice respective, et le principe de non-extradition des nationaux ne peut plus fonctionner, d'autant qu'il faut une réciprocité totale dans ce système. Et donc, la France a accepté, effectivement, de ne pas faire valoir ce principe, qui d'ailleurs ne fonctionne pas vraiment dans ce contexte, puisque dans le contexte du mandat d'arrêt, on n'extrade pas, on remet. Alors, c'est un peu un jeu de mots, pourrait-on dire, mais on n'est pas dans le contexte d'une extradition classique.
Quelle est la différence ?
C'est les textes qui sont différents. Les textes applicables sont différents. Là, on a un mandat d'arrêt
mais
européen.
Mais entre remettre un détenu et extrader un
Alors,
détenu ?
Alors, juridiquement parlant, il y a une petite différence en l'occurrence, puisque quand on remet une personne sous mandat d'arrêt européen, les États peuvent exiger que, même si la personne sera jugée dans l'État requérant, eh bien, sa peine devra être exécutée dans l'État requis. Ceci afin de garantir la réinsertion sociale du condamné une fois qu'il aura purgé sa peine, s'il est condamné.
L'affaire Polanski, Jean-Marc Touvenin. Alors, je rappelle les faits pour les auditeurs. 1977, Roman Polanski, poursuivi pour une affaire de crime sexuel sur mineur. Il est alors incarcéré, d'abord dans un premier temps, 47 jours, pour passer des expertises psychiatriques. Il est ensuite libéré sous caution. Il va plaider coupable pour les rapports sexuels illégaux avec mineurs, en échange de quoi il y a un accord qui est passé avec le juge. Donc, les charges les plus graves sont abandonnées. Et alors qu'il est libéré sous caution, Polanski fuit d'abord vers la Grande-Bretagne et puis vers la France, dont il possède évidemment la nationalité. Depuis ce moment-là, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt américain. Et voilà que le 30 octobre dernier, le tribunal de Cracovie refuse de livrer le réalisateur franco-polonais, qui par ailleurs vit en France, vers les États-Unis. Votre regard sur cette nouvelle décision dans cette affaire politico-médiatico-juridique qui dure depuis presque 40 ans maintenant ?
J'ai l'impression que c'est une affaire qui a duré beaucoup trop longtemps, avec une victime qui ne se plaint pas ou qui ne se plaint plus, un procureur américain qui a envie de faire parler de lui. Enfin, moi, je trouve que le tribunal de Cracovie a pris une décision qui me paraît assez sensée, considérant qu'il n'y a pas d'affaire. C'est-à-dire que l'affaire a été tranchée, enfin, elle était éteinte, hein, l'action publique aurait dû être éteinte avec l'accord, vous venez d'en faire état, conclu par les avocats de Polanski et le procureur de l'époque. J'ai l'impression qu'on a là une décision qui est plutôt bonne et qui met fin, en tout cas pour ce qui concerne la Pologne. Parce que l'affaire n'est pas forcément terminée dans les autres états où Polanski pourrait se rendre.
Vous vous trompez, elle n'est pas non plus terminée pour la Pologne, parce que pour l'instant, le parquet qui représente l'arcate américaine peut désormais interjeter l'appel. Si l'appel confirme la décision, le dossier là est clos. En revanche, en cas d'approbation, la décision finale en revient à qui ? Au ministre de la Justice. Donc ça veut dire que dans ce système polonais, le politique prend le relais de la justice.
Vous avez raison. Donc le politique a souvent un mot à dire dans le processus d'extradition. On se souvient par exemple de l'affaire Pinochet. Donc dans l'affaire Pinochet, il y a eu toute une sorte de... Enfin, il y a eu une procédure très rocambolesque en justice. Et puis, in fine, c'est le politique qui a décidé de ne pas extrader Pinochet pour des raisons humanitaires. On peut aussi évoquer l'affaire Battisti.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Où là aussi, le politique va prendre le relais. Mais gardons l'affaire Battisti pour l'instant sous le coude. Est-ce qu'on peut faire une petite géographie, Jean-Marc Touvenin, justement, de ces pays qui permettent l'extradition et ceux qui ne permettent pas ? Qu'est-ce qu'on peut déceler aussi, peut-être, dans les différentes cultures juridiques qui permettent d'expliquer ces différences ?
Ce sont les cultures juridiques, justement. Alors, le monde est partagé, grosso modo, en deux grandes cultures juridiques. La culture romano-germanique ou continentale, qui est issue, finalement, de l'approche napoléonienne, du code Napoléon. Et puis la culture...
La tradition common law chez les anglo-saxons.
Absolument. Et là, donc, on a des cultures différentes, notamment sur la contumace, par exemple. Le jugement par contumace est plus ou moins accepté selon les cultures. S'agissant de l'extradition des nationaux, c'est la même chose. Donc, ce sont les pays continentaux, européens et d'autres, qui refusent d'extrader leurs nationaux, tandis que les anglo-saxons sont plutôt favorables à l'extradition des nationaux.
Y compris les États-Unis ?
Oui, absolument.
Peut-être en question de souveraineté, les États-Unis, en général...
Ah non, sur ce terrain-là, alors j'ai pas d'exemple d'extradition d'Américains, mais sur le principe, ils n'ont aucune objection au fait d'extrader un national vers un pays alors qui par ailleurs présenterait des garanties de justice convenables dans lequel la personne aurait commis un crime. Ça, ils n'ont pas de souci de ce point de vue-là.
Et quid des pays d'Amérique latine ?
Ça peut être variable. Alors le Mexique, par exemple, n'extrade pas ses nationaux. À ma connaissance, la Colombie extrade ses nationaux, ce qui d'ailleurs fait bondir un certain nombre de commentateurs plutôt à droite. En Colombie, on sait qu'il y en a qui sont assez durs, assez souverainistes. Mais la Colombie le fait, notamment dans le domaine des narcotrafics.
Là, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Michel Blanquer.
Mais juste un point. Alors, il n'est pas impossible qu'il y ait un accord, un traité entre la Colombie et les États-Unis qui précisément indique qu'on ne peut pas opposer de refus d'extradition en cas de poursuite pour des faits de drogue.
Je voudrais revenir peut-être un petit instant, Jean-Marc Touvenin, sur le cas français. J'ai évoqué tout à l'heure dans mon introduction cet oligarque kazakh déchu, Mukhtar Ablyazov, qui est incarcéré depuis 2013 en France. Récemment, Manuel Valls, je le disais, a signé son décret d'extradition. Alors tout est suspendu, effectivement, mais... en tout cas, l'exécutif a autorisé cette extradition vers Moscou, pas vers Astana, la capitale du Kazakhstan. Mais dans le même temps, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a refusé, c'était il y a quelques jours, l'extradition du militant des droits de l'homme Nikolai Kabliakov vers la Russie. Quel regard vous portez sur ce qui apparaît quand même comme une contradiction ? Finalement, on a l'impression qu'on est plus dans une logique de cas par cas sur un principe fixe et parfaitement intangible.
Oui, c'est forcément du cas par cas, puisque la décision prise par un État requis d'extrader ou non dépend du cas particulier. Ça, il y a absolument pas de doute là-dessus. Donc on regarde tout particulièrement pourquoi la personne est poursuivie. Quelle est la cause de la poursuite ? Vous parliez à l'instant d'un militant des droits de l'homme. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il est poursuivi en Russie, mais il est parfaitement autorisé, classique, validé dans les conventions internationales, qu'un État requis peut refuser, même doit refuser, d'extrader une personne s'il est poursuivi pour ses opinions politiques. Militant des droits de l'homme, à mon avis, ça renvoie à la notion d'opinion politique.
Allez, autre pays, encore une affaire récente. On a appris que l'Italie avait refusé l'extradition d'un jeune Marocain soupçonné de complicité avec les auteurs de l'attentat du Bardo à Tunis. Dans son communiqué, le président de la Cour de Milan explique que l'homme risque la peine de mort en Tunisie et que donc c'est un élément qui empêche son extradition. Donc l'Italie n'extrade pas, et je crois que c'est un principe qui est suivi par un certain nombre de pays de l'Union européenne, n'extrade pas les individus qui risquent la peine de mort.
Ah, mais c'est une obligation, en fait, qui pèse sur les États membres, enfin, partis à la Convention européenne des droits de l'homme, depuis l'arrêt Söring, mais qui a été confirmé à de multiples reprises depuis. Donc, en application des droits de l'homme à l'européenne, on ne peut pas extrader une personne qui risquerait, dans le territoire requérant, d'être condamnée ou d'être condamnée à peine de mort ou d'être exécutée. On ne peut pas non plus, d'ailleurs, l'extrader s'il risque des traitements inhumains, dégradants, des tortures ou des choses comme ça. Ça, c'est donc une obligation qu'a mise en œuvre l'Italie. Alors, par contre, ce qui relève de l'appréciation de chaque État, en tout cas dans un premier temps, après, il peut y avoir une contestation devant la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui relève de l'appréciation de chaque État, c'est le point de savoir s'il y a un vrai risque de condamnation à la peine de mort. Dans le cas en question, je crois que le risque est assez évident. Alors par contre, l'État...
Parce qu'il peut y avoir des ambiguïtés. On parlait de la Russie. La Russie, en fait, a aboli de facto la peine de mort. Mais je crois qu'il n'y a pas eu... C'est pas passé par le Parlement. Et donc, la Russie fait partie de ces pays qui, bon, oui, ne l'appliquent plus. Mais en même temps, elle n'est pas totalement abolie. Donc, comment est-ce qu'on fait dans ce genre de cas?
Alors d'abord, il faut regarder le crime qui est poursuivi. Si le crime n'est pas passible dans le droit de l'État requérant de la peine de mort, il n'y a pas de sujet. Maintenant, si le crime est passible de la peine de mort dans le droit de l'État requérant, il revient à l'État requérant d'apporter des garanties suffisantes à l'État requis qu'il ne sera pas poursuivi sur la base d'une peine de mort et qu'il ne sera pas condamné à mort. Donc même dans les pays pratiquant, ou en tout cas théoriquement en pratiquant la peine de mort, il est possible d'extrader quelqu'un dès lors que ces pays apportent des garanties suffisantes. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'on extrade souvent des criminels ayant commis des crimes très graves vers les États-Unis. Parce que les États-Unis apportent des garanties suffisantes que les personnes ne seront pas condamnées à mort.
Spécificité en revanche du droit italien, le refus d'extradition s'accompagne mécaniquement d'une libération du détenu. Sauf si la justice décide de poursuivre. Alors, l'affaire Söring, parce que ça c'est très important, on va revenir un petit peu là-dessus. Jens Söring, ressortissant allemand, installé aux États-Unis avec ses parents, mars 85, il a 18 ans, il est suspecté d'avoir tué les parents de sa petite amie. Il disparaît avec justement sa petite amie, puis il réapparaît en Grande-Bretagne pour une affaire d'escroquerie sur des chèques. Söring avoue alors aux enquêteurs son meurtre, alors depuis il s'est rétracté, mais les États-Unis demandent à ce moment-là son extradition pour qu'il soit jugé, en vertu justement d'un traité d'extradition qui remonte aux années 1870. Sauf que l'extradition n'aura jamais lieu. Pourquoi ?
Alors, effectivement, donc les États-Unis se basent à l'époque sur un traité d'extradition qui ne dit rien de la peine de mort. Traité d'extradition dit si la personne est poursuivie aux États-Unis, que la demande d'extradition est faite en Angleterre, eh bien le Royaume-Uni devra extrader. Donc rien ne permettait dans le droit international au pays requis de refuser l'extradition. Sauf que le pays requis n'avait pas vu, à l'époque, que la Convention européenne des droits de l'homme donnait prise à une contestation de sa décision. Alors, l'intérêt de l'affaire Söring, c'est qu'en réalité, la Convention européenne des droits de l'homme n'interdit pas la peine de mort. À l'époque, la Convention européenne des droits de l'homme dit simplement la peine de mort ne peut être infligée, enfin le droit à la vie ne peut être écarté que sur la base d'une loi. Et si la loi prévoit la peine de mort, tout va bien quelque part. Sauf que la Convention européenne des droits de l'homme interdit par ailleurs, et de manière extrêmement nette, les traitements cruels, inhumains ou dégradants. Et dans l'affaire Söring, ce qui a été plaidé et ce qui a été gagné, c'est que l'extradition de M. Söring vers les États-Unis l'obligerait finalement à suivre une procédure qui passe avant l'exécution, l'exécution éventuelle par le couloir de la mort, ce long couloir théorique, mais ce long couloir de temps durant lequel le condamné à mort attend sans trop savoir s'il va être exécuté ou pas, il y a une série d'appels possibles, et que la Cour donc a considéré comme étant un traitement inhumain ou dégradant, une forme de torture mentale. Donc la Cour a dit, le risque de voir M. Söring subir cette torture mentale interdit en fait à l'Angleterre de l'extrader vers les États-Unis.
Donc c'est un arrêt qui date de 1989, ouais. Véritable rupture. D'une certaine manière, quand on parle de traitement, comme vous le disiez, de mauvais traitement dans le pays de destination, ce qui empêche l'extradition, ça fait quand même un paquet de pays.
Oui, ça peut faire un certain
nombre de pays. Ça rend l'extradition extrêmement difficile, quels que soient les cas. Hein.
Non. Si vous extradez quelqu'un vers les États-Unis, le traitement cruel, inhumain ou dégradant, il est quand même pas garanti. L'intérêt de l'arrêt Söring, ça a été finalement de rendre la peine de mort impossible, parce qu'elle était précédée par cette procédure.
Ça a eu des effets justement sur la politique américaine. Est-ce que, par exemple, on a décidé de s'engager à ne pas appliquer, pourquoi pas, la peine de mort lorsque justement on est dans des cas d'extradition? Quel effet ça a eu en Amérique,
aux États-Unis, il est tout à fait clair qu'on ne peut en général pas obtenir une extradition si on ne s'engage pas, et ce, de manière convaincante. Il faut un engagement du procureur d'État, il faut un engagement de l'État, il faut un engagement pratiquement des juges. Il faut des preuves dans le droit pénal local qui va être appliqué. Les États-Unis savent très bien qu'ils n'obtiendront pas d'extradition s'ils ne prennent pas des engagements suffisants, convaincants, que la peine de mort ne sera ni requise, ni décidée, ni appliquée.
Ce qui est intéressant, c'est que cet arrêt Söring de la Cour européenne des droits de l'homme de 1989, en fait, elle a eu un impact au-delà des seuls territoires européens. Il y a par exemple le cas d'un Chinois condamné en Équateur qui aurait dû être extradé et qui finalement ne l'avait pas été.
Je vous fais référence à l'affaire Wong Ho Wing contre Pérou, qui a été traitée et jugée d'ailleurs en juin dernier par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et en fait, la Cour interaméricaine des droits de l'homme était confrontée à la même question que la question posée dans l'affaire Söring. Est-ce que le Pérou peut extrader M. Hong Wing vers la Chine, ou prétendait M. Hong Wing, il risquait d'être persécuté et condamné à la peine de mort? Et donc la première question qui se posait, c'est: est-ce que la Convention interdit d'extrader quelqu'un vers un pays où il risque la peine de mort? La réponse a été positive. Oui, elle interdit. Sauf que dans cette affaire, le juge a considéré qu'il n'avait pas eu de preuves convaincante que M. Hong Ho-wing risquerait effectivement la peine de mort en Chine, puisque la Chine s'était engagée précisément à ne pas le poursuivre sur des chefs susceptibles de cette condamnation.
Encore un mot peut-être sur cette question de la diffusion des mesures concernant les extraditions. Les Nations Unies ont adopté une convention contre la criminalité transnationale. Est-ce que de ce texte-là découle un certain nombre de mesures en matière d'extradition ?
Oui.
Lesquelles ?
Alors, l'une qui est très intéressante est la suivante. Vous savez probablement que dans le droit de l'extradition, une des règles phares qu'on retrouve absolument partout est la possibilité, même l'obligation pour l'État requis de ne pas extrader quelqu'un qui est poursuivi pour des raisons politiques, pour des crimes politiques. Eh bien, la convention dont vous venez de parler dit explicitement que les États parties ne peuvent pas considérer que les crimes pour lesquels des poursuites sont engagées sont des crimes politiques. Donc la convention écarte, dans son texte même, elle écarte l'idée même d'un refus d'extradition pour raison politique, dès lors que c'est les crimes visés par la Convention qui sont en cause. Ça, c'est un premier effet. Et puis, il y a un autre effet qui est que il est indiqué dans cette Convention que si un État refuse d'extrader une personne à raison de sa nationalité, donc hein, on revient au principe de non-extradition des nationaux, eh bien, cet État aura l'obligation de le juger. Alors, cette règle ou extradé ou jugé n'est pas absolument généralisé. En l'occurrence, elle est posée de façon claire dans cette convention de Palerme.
Alors, vous tendez une formidable transition. Vous parliez de crimes politiques. L'affaire Battisti, justement. Donc, juin 79, Cesare Battisti qui est arrêté à Milan dans l'enquête sur le meurtre d'un bijoutier. Il est condamné à une douzaine d'années, 12 ans de prison. Une prison de laquelle il va s'évader avant de gagner la France. À l'époque, le président Mitterrand s'engage à ne pas extrader les anciens activistes d'extrême-gauche italiens qui ont rompu avec la violence. C'est ce qu'on appelle alors la doctrine Mitterrand. Et puis, au début des années 2000, on a une nouvelle demande d'extradition qui est formulée. Et c'est Jacques Chirac, à ce moment-là, qui est aux commandes. Il se déclare lui favorable à son extradition. Il est de notre devoir, disait-il, de répondre favorablement à une demande d'extradition. La Cour de cassation va donner le feu vert à cette extradition vers l'Italie. Une décision d'ailleurs confirmée ensuite par le Conseil d'État. Mais le Battisti en question est déjà parti. Il est parti du côté du Brésil. C'est donc un nouvel épisode qui va s'ouvrir entre le Brésil et l'Italie. Est-ce qu'aujourd'hui, une affaire comme celle-ci serait encore possible ? Est-ce que la France pourrait encore refuser à l'Italie l'extradition d'un de ses citoyens accusés de meurtre ?
Alors non, puisque on est sous le mandat d'arrêt européen, sous le régime du mandat d'arrêt européen, maintenant on ne peut plus faire ça.
Est-ce que vous diriez qu'avec cette affaire, globalement, et notamment avec ce mandat d'arrêt européen, la question de l'extradition a été un petit peu dépolitisée, justement ?
Dans le cadre du mandat d'arrêt européen, elle n'est absolument pas politisée, effectivement. Les conditions du transfert, enfin de la remise des personnes recherchées par les justices des autres pays européens sont d'une certaine façon automatisées. Enfin, il y a une décision automatique. Et absolument, l'idée du mandat d'arrêt européen vise à faciliter, en fait, le transfert d'un pays à l'autre des personnes recherchées afin que justice soit rendue dans le pays où, en principe, la justice devrait être rendue. C'est un peu l'idée de la territorialité du droit pénal.
Alors, c'est peut-être vrai sur le volet France-Italie, mais quand on regarde le volet Brésil-Italie, les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Parce qu'à l'époque, le procureur général du Brésil va donner un avis favorable à l'extradition de Cesare Battisti, considérant que ce dernier avait bien des motivations politiques, mais que celle-ci était insuffisante pour justifier la mise en danger, je le cite, de responsable de l'autorité et de civils sans défense. Et puis, janvier 2009, le ministre brésilien de la Justice, Tarso Genro, permet justement à Battisti d'obtenir le statut de réfugié politique. Alors l'Italie, à ce moment-là, continue à croire à son extradition. En tout cas, c'est ce qu'espère à l'époque le ministre de la Défense italien. Écoutez.
Il serait incroyable de voir quelqu'un qui n'a pas passé un seul jour en prison, quelqu'un qui n'a jamais manifesté de regret pour les nombreux meurtres qu'il a commis, être libéré. C'est un meurtrier qui doit être livré à la prison italienne. Si ce n'est pas le cas, je suppose qu'il y aura des conséquences. Le
gouvernement italien va recourir au Tribunal international de justice de Haia, na Holanda, contre la décision du Brésil de non extraditer Cesare Battisti.
Oui, parce que malgré les mises en garde du ministre de la Défense à l'époque, le Brésil va renoncer à son extradition. On a même le président Lula qui va aller jusqu'à gracier Cesare Battisti. Et là encore, on voit que le politique va passer au-dessus de la décision de justice.
Oui, mais le politique considère qu'il en a le droit. C'est-à-dire que quand on regarde à la fois le droit brésilien et la convention d'extradition entre l'Italie et le Brésil, Il en ressort que Lula pouvait prétendre être dans son droit, à la fois dans le droit interne, effectivement, il a le dernier mot dans ces affaires-là. Ça, c'est le droit brésilien, qui est très respectueux, effectivement, qui est très présidentiel, en fait. Et puis le droit international. Alors, sauf que le droit international, la Convention, en l'occurrence, a été interprétée d'une certaine façon par Lula. Et évidemment, les Italiens ont une interprétation différente. Donc là, on avait un litige, une dispute internationale à propos d'un traité.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
Culture Monde cette semaine sur la question des prisons et aujourd'hui d'une prison à l'autre, la diplomatie des extraditions. Nous sommes avec Jean-Marc Touvenin, avocat, professeur de droit public à l'université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense. On va prendre à présent la direction du Mexique. L'actualité récente dans l'univers carcéral mexicain, c'est bien sûr la libération d'El Chapo, qui s'est évadé d'une prison. C'était l'été dernier dans des conditions absolument incroyables.
Le tunnel était équipé de tuyaux en PVC pour la ventilation, la lumière, et pour extraire les gravats d'une moto montée sur des rails.
También estamos al tanto de un hecho muy lamentable, que ha indignado.
Nous suivons de près ces faits lamentables qui indignent la société mexicaine. Je suis profondément choqué face à l'évasion de l'un des délinquants les plus recherchés du Mexique et du monde. Cela représente indéniablement un affront à l'État mexicain, mais je suis confiant dans le fait que les institutions du Mexique, particulièrement les responsables de la sécurité publique, seront à la hauteur, avec force et détermination, pour arrêter de nouveau ce délinquant.
Voilà le président mexicain Peña Nieto, extrêmement fâché de cette évasion d'El Chapo, le plus puissant des narcotrafiquants du pays, qui se fait la malle alors qu'il est en prison, dans une prison en plus de haute sécurité, en empruntant ce long tunnel d'un kilomètre et demi, débouchant dans un immeuble en construction. Il était considéré comme le symbole, en plus, des efforts produits par ce gouvernement d'Enrique Peña Nieto, qui était parvenu à le capturer en février 2014, après 13 années de cavale, hein, parce qu'il avait déjà réussi cette évasion étonnante, là encore caché dans un chariot de linge. Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de droit public et puis également président de l'Institut des Amériques. Et je note que vous êtes également le directeur général du groupe ESSEC au Mexique. Cette deuxième évasion du baron de la drogue, elle a relancé le débat bien sûr sur son extradition en cas de nouvelle arrestation. En juin dernier, il y a un juge américain qui avait formulé une demande formelle d'extradition vers les États-Unis. Donc on peut penser que si El Chapo est rattrapé, évidemment il va falloir le rattraper, les États-Unis chercheront à obtenir son extradition vers les États-Unis. Et a priori, le Mexique ne devrait pas s'y opposer. En tout cas, quand on voit le nombre de narcotrafiquants justement qui ont été envoyés aux États-Unis ces derniers temps, on se dit que c'est une hypothèse très probable, Jean-Michel Blanquer.
Oui, surtout à la lumière du scandale qui a fait cette évasion. Donc là, on est sur des sujets évidemment très politiques. On est sur des sujets de dignité nationale aussi. Et pour le Mexique, ça a été évidemment un épisode assez difficile. Donc s'il venait à être arrêté, on peut en effet imaginer que les États-Unis le réclameraient et que le Mexique l'extraderait. C'est très probable.
Je le disais, en quelques semaines, en quelques jours, il y a une douzaine, je crois 13 narcotrafiquants exactement, qui ont été extradés vers les États-Unis pour être jugés devant la justice américaine. On peut penser là aussi que c'est une conséquence directe de l'évasion d'El Chapo. C'était une façon de se faire pardonner peut-être.
Oui, tout à fait. On trouve avec le cas mexicain ce qu'on voyait en Colombie dans les années 80 et 90, c'est-à-dire l'extradition comme un élément, je dirais, d'efficacité carcérale d'une certaine façon, c'est-à-dire une façon de se garantir qu'il n'y aura pas d'évasion, tout simplement. Et puis deuxièmement, un élément dans les relations internationales, dans la relation entre le pays en question, là le Mexique, autrefois la Colombie, et les États-Unis, et avec évidemment des hauts et des bas dans la relation et des modulations de l'extradition en fonction de la relation.
Oui, c'est des transferts qui se sont faits avec, évidemment, en arrière-fond des accords de coopération juridique spécifiques entre le Mexique et les États-Unis.
Oui, tout à fait. Il faut savoir que le continent américain, de façon générale, a une particularité, c'est que c'est là où on trouve le plus de pays qui acceptent quelque chose, finalement, d'assez rare dans le monde, c'est-à-dire d'extrader leurs propres nationaux. Je crois qu'il doit y avoir 7 ou 8 pays dans le monde qui font ça, et la plupart sont sur le continent américain. Et c'est le cas du Mexique et de la Colombie. Et c'est une histoire assez ancienne, puisque dès la fin du 19e siècle, on voit des traités multilatéraux d'extradition et l'idée que il y a de la délinquance internationale et que cela peut conduire à extrader des nationaux. Et puis ça tient aussi au fait évidemment de la domination des États-Unis sur le continent, notamment à partir de la fin du 19e siècle, qui conduit aussi à cet état de fait. Et puis après, on a eu des traités bilatéraux, aussi bien pour le Mexique que pour la Colombie que pour d'autres pays, qui, avec les États-Unis, se sont entendus sur les modalités juridiques concrètes, qui sont en général.
Mais alors, expliquez-moi pourquoi, en février 2014, quand les autorités mexicaines attrapent El Chapo, les États-Unis font une demande d'extradition au Mexique et elle est refusée. Pourquoi ? Si c'est si courant que ça. Alors,
j'aimerais bien pouvoir vous répondre. Il y a énormément de débats autour de la question que vous posez, puisque c'est évidemment une question de bon sens qui a surtout été posée après l'évasion. Il n'y a pas de véritable réponse. Certains ont spéculé sur le fait que soit on ne souhaitait pas extrader parce qu'il y avait des informations qui étaient gênantes pour tel ou tel, soit parce que évidemment, comme toujours, il y a les questions aussi d'orgueil national. Il y a beaucoup d'éléments que l'on ne connaît pas, et notamment des éléments un peu de négociation. Certains disent même que, même si c'est pas probable, mais enfin, la thèse a été avancée que c'était une fausse arrestation qui comportait déjà l'hypothèse de l'évasion dès le début. Donc, le fait qu'il n'y ait pas eu d'extradition, évidemment, ouvre la porte à des spéculations de ce type.
Alors, on le disait tout à l'heure, peut-être que s'il est repris, le Mexique l'extradera du côté des États-Unis, mais peut-être pas, parce que dans l'hypothèse où il est rattrapé, si le Mexique refuse l'extrader vers les États-Unis, c'est aussi, d'une certaine manière, un signal fort envoyé aux États-Unis, mais aussi à l'opinion mexicaine, pour signifier, d'une certaine manière, qu'on n'intervient pas dans les affaires internes du pays. C'est une manière pour ce président Neto qui, quand même, avec cette affaire, a perdu beaucoup de sa popularité. Là, il est clairement au plus bas depuis cette spectaculaire évasion. Donc on peut imaginer aussi qu'il utilise cette affaire comme levier pour peut-être asseoir sa légitimité, pour gagner en popularité. Ce serait un signe d'autorité fort à destination, bien sûr, d'abord et avant tout peut-être de l'opinion, mais aussi des États-Unis.
Oui, mais d'abord c'est un président qui a plutôt des bonnes relations avec les États-Unis. Les problèmes d'impopularité qu'il peut avoir sont certes liés à cette affaire, mais plus généralement aux problèmes d'insécurité qui peuvent exister au Mexique. Et donc, le moment venu, s'il devait y avoir cette arrestation, il y aurait plusieurs paramètres à prendre en compte par le gouvernement mexicain, y compris celui de la sécurité. Je pense qu'il y a tout un pan de l'opinion publique aussi qui peut voir avec de manière positive le fait qu'il y ait cette extradition.
Jean-Marc Touvenin, réaction sur cette affaire, évidemment, El Chapo, et puis toutes les considérations relatives à l'extradition qui vont autour.
Oui, il y a plusieurs considérations. Il y a la recherche de... D'abord, il y a la culture juridique. Est-ce qu'on extrade des nationaux ou pas? Alors parfois, il y a des oppositions très fortes, parfois il y a des oppositions moins fortes, on vient d'en parler. Et c'est beaucoup moins fort, effectivement, en Amérique latine. Et puis, il y a aussi, la fierté nationale. Vous savez, sur le continent africain, désormais, les Africains ne souhaitent plus que des étrangers, que des non-Africains jugent les leurs. On a suivi toute une série d'affaires, l'affaire Issenabré, puis il y en a d'autres. Donc il y a comme ça une volonté nationale.
L'ancien président tchadien qui est en ce moment jugé à Dakar.
Il est jugé à Dakar, notamment parce que la Belgique avait réclamé son extradition pour qu'il soit jugé en Belgique. Et ça avait créé une levée de bouclier tout à fait importante de la part de tous les pays africains, qui d'ailleurs ont des difficultés à admettre également la compétence de la Cour pénale internationale. Il y a un mouvement un peu généralisé en Afrique de refus de dépendre de l'extérieur pour que justice soit rendue. Donc on peut avoir ça aussi dans un certain nombre de pays qui peuvent dire « Écoutez, nous, on va se charger nous-mêmes de juger les criminels ». Et puis, il y a peut-être une troisième considération qui est très importante, effectivement, c'est la recherche de l'efficacité de la justice. Et c'est vrai que si on juge quelqu'un dans un pays où, de toute manière, on sait qu'il ne purgera pas une peine très longuement parce qu'il peut s'échapper, ou bien dans un pays où on pense qu'il peut y avoir de la corruption ou que sais-je encore, on aura peut-être tendance, effectivement, si on veut avoir une approche plus saine, à l'envoyer ailleurs pour que justice soit effectivement rendue.
Jean-Michel Blanquer, encore un mot, parce que vous le disiez, il y a pas mal d'accords mutuels d'extradition qui sont passés dans le sous-continent américain. Il y a par exemple en 2011 le Mexique et la Colombie qui annoncent un traité mutuel d'extradition. On est en 2011, le précédent traité lui remontait à 1930. Quel bilan est-ce qu'on peut faire de ces accords sur dans cette lutte contre les narcotrafiquants, pardon? Est-ce que c'est finalement utile? Est-ce que ça fonctionne?
Oui, bien sûr. C'est ce qu'il faut dire, c'est que finalement, c'est une, un cas de figure assez ancien. Encore une fois, on peut dire que ça a plus d'un siècle. Et que la signification de l'extradition évolue beaucoup avec le temps en fonction du contexte politique et social en général et international. D'une certaine façon, le continent américain a été précurseur parce que les premiers accords de, en matière d'extradition, multilatéraux et bilatéraux, tiennent compte d'une réalité que nous connaissons parfaitement maintenant, c'est-à-dire le caractère international de la délinquance, et notamment en matière de drogue. Donc, d'une certaine façon, le continent a été précurseur. Ensuite, il faut voir que tout ça est aussi lié au fait qu'on a des pays qui se sentent dans une situation assez fraternelle. C'est quand même la région du monde où il y a le plus de relations diplomatiques fortes, où il y a une certaine solidarité réelle entre les pays, quelles que soient les multiples difficultés qui existent. C'est aussi un facteur explicatif. Et puis ensuite, l'extradition a pris des sens complètement différents selon le temps. Si vous prenez le cas de la Colombie sur laquelle on a un certain recul maintenant, dans les années 80, on trouve ce qui vient d'être dit là, c'est-à-dire le fait que l'extradition des nationaux narcotrafiquants est refusée par une grande partie des secteurs politiques pour des questions de dignité nationale. Et puis il y a de telles difficultés de l'État à assurer ses missions que finalement les candidats à la présidentielle qui apparaissent comme les plus fermes sont ceux qui sont pour l'extradition. Et d'ailleurs un va se faire assassiner à cause de ça, et celui qui sera élu, César Gaviria, à l'orée des années 90, était sur ce thème de « oui, moi je suis un homme fort, je vais extrader les narcotrafiquants ». Et puis comme la Colombie a quand même progressé sur un certain nombre de points, maintenant ils sont davantage capables de juger les narcos, et ces dernières années, ce qui est le paradoxe, là où il y a une sorte de renversement de situation, c'est qu'on a eu des Colombiens extradés aux États-Unis qui une fois aux États-Unis, purgent une très faible peine, parce que la négociation se passe aux États-Unis. Donc là, il y a une sorte d'ironie de l'histoire sur ce sujet.
Ça ne doit pas beaucoup plaire aux Colombiens, ça.
C'est infiniment complexe, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Là, on voit aussi le mélange des sujets, puisqu'il y a à la fois le sujet de la drogue qui a été central sur cette question, mais vient se mêler ensuite les questions politiques. Dans le cas colombien, tout ça s'entremêle avec le fait que les narcotrafiquants ont souvent été des paramilitaires qui ont négocié avec l'État colombien un certain nombre de choses. Et puis maintenant, on le voit avec les FARC, qui sont aussi trempés dans le narcotrafic et qui sont en train de négocier un traité de paix très important, historique, et pour lesquels il y a évidemment des éléments de négociation quant à la suite judiciaire. Et ces éléments de négociation peuvent parfaitement englober les États-Unis. C'est-à-dire qu'on voit que les États-Unis sont capables aussi de faire des compromis, y compris avec les cartels, de façon à adoucir les peines une fois que le jugement a eu lieu.
Merci beaucoup, Jean-Michel Blanquer, d'avoir été ce matin avec nous. Vous vouliez réagir? Dernière réaction, Jean-Marc Touvenin?
Oui, simplement pour confirmer sur le plan purement juridique tout ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire le caractère un peu extraordinaire de cette criminalité liée à la drogue qui conduit les États, certains États, à avoir une approche un peu plus ouverte. La loi mexicaine sur l'extradition internationale pose le principe, en fait, que le Mexique n'extrade pas ses nationaux, sauf circonstances exceptionnelles déterminées par le pouvoir exécutif, et on est dans l'exceptionnel quand on parle du trafic international de drogue.
Merci beaucoup, en tout cas, Jean-Michel Blanquer, je rappelle, professeur de droit public, président de l'Institut des Amériques et également directeur général du groupe ESSEC. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Avant de retrouver notre dernier invité, Antoine Kernen, par téléphone, qui va encore patienter quelques instants, Jean-Marc Touvenin, il y a aussi une question d'actualité qu'on n'a pas encore soulevée, c'est l'affaire Snowden. Snowden, toujours réfugié en Russie, récemment le Parlement européen a voté une résolution exhortant les pays membres à protéger Edward Snowden en vertu de son statut de lanceur d'alerte et de défenseur des libertés. Alors c'est vrai, la résolution a été adoptée à une très très courte majorité, 285 voix contre 281. Alors, mais en tout cas, l'amendement est là, il s'inscrit dans une résolution d'une cinquantaine d'articles condamnant la surveillance de masse des citoyens par la NSA. Vous pensez que Snowden pourrait finalement être accueilli dans un pays de l'Union européenne? Parce qu'on ne voit pas bien qui pourrait se permettre la crise diplomatique qu'il y aurait derrière avec les États-Unis.
Je suis assez d'accord avec vous. J'ai l'impression que la situation actuelle est assez commode pour les pays européens. La Russie s'en charge. Elle a déjà beaucoup de problèmes avec le reste du monde. Ça fait un de plus. Mais en même temps, ça arrange tout le monde, effectivement, que la Russie accueille Snowden. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose que ce monsieur qui a finalement révélé des choses très utiles ne soit pas poursuivi pour haute trahison. Je crois que c'est ça le chef d'inculpation ou vol de données, haute trahison, etc. aux États-Unis. Moi, je trouve que c'est une bonne chose que cette personne soit aujourd'hui en liberté quelque part.
France Culture. Culture Monde par Florian Delorme.
On va s'intéresser à présent à la Chine. Récemment, on apprenait dans les colonnes du journal Le Monde, sous la plume de Sébastien Lebelzi, que les autorités de Pékin ont envoyé des équipes de policiers en Afrique afin de mettre la main sur d'anciens cadres du Parti communiste qui sont partis chercher refuge dans la région après s'être servi un tout petit peu dans la caisse. Alors, je dis un tout petit peu, mais on parle d'un préjudice total d'à peu près 120 milliards de dollars. C'est dire quand même l'ampleur de cette affaire. Bonjour Antoine Kernan. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sinologue, un spécialiste des relations entre la Chine et l'Afrique. Vous êtes maître d'enseignement et de recherche à l'université de Lausanne. L'opération, elle a été lancée en 2012. Elle a été baptisée opération Renard. Visiblement, ces anciens cadres du parti ont tous utilisé la même technique pour aller de la Chine à l'Afrique, c'est-à-dire qu'ils passent en général par Hong Kong, qui est une plaque tournante dans l'industrie des faux passeports. Il y en a beaucoup qui ont obtenu notamment des cartes de résident en Gambie. Certaines ont même obtenu la nationalité du pays d'Afrique où ils se sont installés. Est-ce que c'est vraiment un phénomène important? Est-ce que c'est un phénomène marginal? Parce qu'il y a une différence quand on regarde la liste officielle qui ne compte qu'en gros une dizaine de noms et selon certaines sources, visiblement, il serait question quand même de dizaines de milliers d'individus partis se cacher en Afrique, notamment du côté du Soudan, du Ghana, de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Ça va être un défi terrible pour Pékin. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas d'accord d'extradition entre Pékin et les pays d'Afrique, Antoine Kernan.
Oui, tout à fait. Non, c'est un défi important. Alors, je pense qu'il y a des différences. Les raisons de la fuite peuvent être multiples. Mais c'est sûr qu'il y a un certain nombre de gens qui sont cachés en Afrique de l'autorité. Ça, je pense que c'est une évidence. C'est un endroit commode, hein, si vous... pas de possibilité d'extradition très difficilement, et puis ces personnes ont pour la plupart effectivement la nationalité du pays dans lequel ils résident. En tout cas, il n'y a pas de problème tant qu'ils restent chez eux.
Est-ce que Pékin discute avec certaines capitales africaines pour mettre en place des accords d'extradition, justement?
Il y en a quelques-uns qui ont visiblement été signés avec l'Afrique du Sud, avec le Kenya, avec la Tunisie, ce faire, mais il y a encore beaucoup d'autres pays pour l'instant, où il y a rien. La question, c'est de savoir si ces gens, pour la Chine, sont considérés comme chinois, mais pour le pays en question, ils sont des ressortissants. Alors, s'ils reconnaissent en tout cas leur nationalité africaine, ça devient effectivement beaucoup plus problématique pour être extradé.
Parce que, a priori, quand même, Antoine Kernan, on se dit que Pékin est en position de force face au gouvernement africain quand on pense au degré d'investissement des Chinois dans les économies de la région. Évidemment, l'évolution du poids économique et financier de Pékin en Afrique lui donne, d'une certaine manière, les armes dans les rapports de force diplomatiques.
Tout à fait. C'est d'ailleurs probable qu'on ne passe pas forcément par des accords d'extradition formalisés pour obtenir gain de cause par rapport à un certain nombre de ces individus. C'est-à-dire qu'on va faire des négociations, effectivement, en raison des très forts investissements chinois. On a, comme vous le dites, on est en position de force, la Chine est en position de force pour demander l'extradition, pour demander qu'on reconduise dans un avion ces individus concernés.
Alors, il n'y a pas que les pays africains, Antoine Kernan, qui sont concernés, parce que je crois que la Chine a aussi formulé des demandes d'extradition, et notamment, par exemple, du côté des États-Unis. Elles ont abouti?
États-Unis, Canada, alors il y en a un certain nombre, en tout cas, qui ont abouti. C'est toujours des longs débats dans le pays en question, parce qu'on renvoie ces personnes dans des pays en Chine, dans un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, donc ça crée souvent le débat, et c'est aussi pour ça que la Chine a l'air d'opérer en marge de la légalité pour convaincre, pousser une partie de ses ressortissants à revenir volontairement, entre guillemets, dans le pays pour se faire juger.
Je vois pas très bien ce qui pourrait pousser les ressortissants chinois à revenir en Chine pour faire face à la justice.
Moi non plus, mais on
d'accord,
a
vous me rassurez.
De pression aussi par rapport à la famille restée sur place, par rapport à un certain nombre d'avoirs, etc., bloqués. Voilà, il y a d'autres éléments qui peuvent entrer en ligne de compte et qui permettent de pousser pousser ces gens à... Enfin, en tout cas, il y a une volonté de le faire, pas forcément d'une manière suivant le cheminement juridique habituel.
Jean-Marc Touvenin, réaction.
Oui, il y a sans doute pas mal de raisons qui peuvent justifier pour une personne qui se retrouve loin de chez elle d'avoir envie de retourner chez elle, moyennant peut-être une promesse d'une peine moins lourde ou que la peine sera purement financière. Je veux dire, si une personne doit simplement payer une partie de ses gains tirés d'un détournement d'argent pour pouvoir rentrer tranquillement chez elle, après tout, elle va peut-être pouvoir faire ce pari-là. Mais juste un mot pour dire, effectivement, on a beaucoup parlé d'extradition, de traité d'extradition depuis tout à l'heure, et votre invité vient de parler d'accords plus informels, ou en tout cas plus ponctuels. Mais il y a des pratiques unilatérales, effectivement. Il y a des cas dans lesquels des personnes sont expulsées. Hein, elles sont expulsées vers des pays qui sont très contentes de les récupérer.
Alors, février dernier, cette fois, c'est la justice italienne qui a accompagné à Pékin une Chinoise suspectée de fraude économique.
Cela a pris 3 mois depuis l'émission de la notice rouge pour l'arrestation de ce suspect. La police italienne a procédé à l'arrestation et a lancé la procédure d'extradition en coopération avec le ministère de la Justice. Cela montre une coopération efficace entre les départements judiciaires des deux pays. Il s'agit d'une importante avancée en termes de chasse aux criminels à l'étranger.
Voilà, donc coopération entre la Chine et l'Italie, c'est Xu Naigang qu'on entendait, le directeur adjoint du bureau de la coopération internationale du ministère de la Sécurité publique, qui donnait cette interview sur CCTV en février dernier. C'était la première fois, Antoine Kernen, qu'un pays de l'Union européenne extradait comme ça un fugitif économique, parce que c'est la formule qu'on utilise, c'est quand même une rupture. Est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres extraditions de ce genre, Antoine Kernen ?
Moi, je crois que c'est une tendance à ça. Je pense que ça restera quand même des cas relativement isolés, hein, parce que, en tout cas, dans les cas qu'on a vus aux États-Unis, au Canada, ça avait vraiment fait quand même beaucoup parler, hein, des grands débats. C'était pas des décisions faciles à prendre pour le pays en question. Ceci dit, pourquoi pas? Je pense que ça, on va sans doute avoir davantage de ce genre d'extradition.
Je rappelle, Antoine Kernen, qu'il y a quelques années, en 2007, la France et la Chine ont signé un traité mutuel d'extradition.
Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, le cadre légal existe. Donc, c'est vrai. Moi, je pense que ça va se renforcer. D'autant plus que la Chine a vraiment la volonté de sortir de l'impunité ces personnes qui ont quitté la Chine. Hein. Une partie, maintenant, c'est ceux-là dont on parle sont en Afrique, mais il y en a partout ailleurs. Et je pense que l'objectif de la Chine, c'est justement de dire à ces gens, hein, les plus visibles, les moins visibles, vous n'êtes pas, on n'est pas d'impunité à l'extérieur de la Chine, on peut vous rattraper. Et peut-être aussi que politiquement, pour Xi Jinping, c'est plus facile d'aller chercher quelqu'un à l'étranger, hors de ses protections nationales, si je puis dire, hors de son contexte, pour le juger. Donc là, c'est une dimension, effectivement, de politique intérieure. C'est finalement plus facile d'aller chercher quelqu'un à l'étranger que de prendre un haut dignitaire corrompu sur place. Et Dieu sait s'il y a le choix, quand même.
Je précise quand même que ce traité mutuel d'extradition, il existe depuis 2007, mais que le texte stipule quand même que l'accord ne sera applicable qu'à partir du moment où la Chine aura aboli la peine de mort. Donc, dans la pratique, pour le moment, il n'y a pas d'extradition entre Paris et Pékin. Jean-Marc Touvenin, réaction.
Je n'ai pas lu cet accord. Donc, il est suspendu. Il y a une condition suspensive.
Exactement.
Ah, mais c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, en général, c'est pas comme ça qu'on fait.
À l'époque, c'était Pascal Clément qui était ministre de la Justice.
Non, mais c'est une très, très bonne façon d'essayer de disséminer l'interdiction de la peine de mort pour laquelle, moi, je suis très favorable. Mais en général, on le fait pas comme ça. Donc, c'est vraiment un traitement particulier qui est fait à la Chine. En général, on dit, on n'extrade pas quelqu'un qui risquerait la peine de mort. Et dans un pays où la peine de mort existe encore, eh bien, on acceptera l'extradition si des engagements suffisants sont pris que la peine de mort ne sera pas ni requise, ni décidée, ni appliquée. Ce qui est très très fréquent vis-à-vis des États-Unis et de quelques autres.
Merci beaucoup, en tout cas, Antoine Kernen, d'avoir été avec nous ce matin en direct, je rappelle, le sinologue. Et puis, je précise pour les auditeurs que vous aviez coordonné un numéro de politique africaine, justement, sur la présence chinoise en Afrique. Merci à vous. The expedition of 50. I need glass.
Extradition, évidemment le titre de ce morceau de ce groupe de rock américain Pavement, voilà, de circonstance. Merci beaucoup Jean-Marc Touvenin de nous avoir accompagné.
Merci de votre invitation. Merci.
C'était un plaisir. Avocat, professeur de droit public à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, un grand merci à vous. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve La Grande Table avec Caroline Bouet. Mais juste avant, c'est comme chaque jour, La Vie Moderne. Très belle journée et à demain.
Saw you hurt.